France Culture.
À voix nue, cette semaine, Arnaud Laporte s'entretient avec Yasmina Reza, figure importante du monde des arts depuis un quart de siècle et jouée dans le monde entier. Couronnée par un Molière de l'auteur en 1987, dès sa première pièce, Conversation après un enterrement, elle triomphe quelques années plus tard avec Art et devient le premier auteur non anglo-saxon distingué par un prestigieux Tony Award. En 2010, Le Dieu du Carnage lui vaut un nouveau Tony Award et une adaptation cinématographique signée Roman Polanski. Cette série d'À voix nue lève le voile sur une artiste qui se prête très peu à l'exercice de l'entretien, et c'est d'ailleurs le sujet de sa dernière pièce, Comment vous raconter la partie. Premier entretien, le pays de la langue.
Yasmina Reza, si je cite les titres de quelques-unes de vos œuvres, comme Conversation après un enterrement, Art ou Le Dieu du Carnage, beaucoup de gens vont reconnaître ces titres, ce qui est un fait assez rare pour un auteur français vivant. Pour autant, on peut pas dire que vous encombriez beaucoup le paysage médiatique, surtout pas le paysage télévisuel. Et en fait, cette série d'émissions à voix nue avec vous est presque étonnante. En ceci que les lecteurs de votre dernier livre en date, Comment vous racontez la partie, se doutent bien que vous n'avez pas un goût très prononcé pour les entretiens, un peu comme l'héroïne de ce livre, Nathalie Oppenheim, écrivain qui se voit invité à une rencontre littéraire, interrogée par une journaliste qui va un peu exprès confondre l'auteur et son héroïne. Alors je vais pas faire la même chose tout à fait avec vous, mais au fond, pourquoi est-ce que vous avez accepté ces entretiens? Est-ce que c'est la radio? Est-ce qu'il y a un goût pour la radio tout de même?
Je vous signale quand même que dans cette pièce, la journaliste pose la même question.
Mais oui.
Vous dites toujours non, et alors que répond mon héroïne? Elle dit parce qu'à force de dire non, il y a un catastrophique oui. La phrase est merveilleuse et je vous dis tout de suite qu'elle n'est pas de moi. Elle est de Sioran, mais j'aime beaucoup. Je me la suis un peu appropriée. Oui. Alors pour répondre à la question, j'aime beaucoup la radio. Parce que, enfin, j'aime pas toutes les radios, ni toute la radio, mais certaines radios, dans un format lent comme celui que nous faisons, là, j'ai une sensation de liberté de pouvoir non seulement m'exprimer, mais me contredire, mais hésiter, mais laisser des silences. J'ai pas l'impression de quelqu'un devant moi qui regarde l'heure et qui attend que je fournisse Dieu sait quoi, d'ailleurs. Donc, c'est un format qui me va.
On vous proposerait la même chose à la télévision, vous diriez oui?
Non, ça me stresse, la télévision. Je suis terrifiée par la télévision.
Bon, ceci posé, on va quand même essayer de faire un peu connaissance. Alors, même si s'intéresser à la biographie d'un auteur est une chose que vous trouvez un peu stupide, vous l'avez souvent dit, Yasmina Reza. Pour autant, allons-y quand même vraiment. Revenons sur les origines, sur un père, homme d'affaires, d'origine iranienne, né à Moscou, sur une mère hongroise, violoniste. Vous grandissez, vous l'avez raconté, à la fois dans une culture juive, une certaine nostalgie de la Mitteleuropa, et en même temps dans un grand amour de la France et du français. C'est vraiment ça le contexte, ou c'est le roman familial, ça?
Non, il y a évidemment une part de roman. Comme je suis assez secrète, j'ai livré la belle histoire. Alors, il y a du vrai, c'est vrai ce que vous dites. Mon père a ces origines-là, ma mère également. Ce sont des gens qui se sont rencontrés en France. Quand on dit le père homme d'affaires, il a fini par être un homme d'affaires aisé, il ne l'était pas toujours. Quand moi je suis née, il n'y avait pas d'aisance dans la famille. Je suis obligée de rétablir un peu, parce que ça m'est un peu revenu en boomerang, cette histoire de nez avec une cuillère en argent, et de façon désagréable. Moi, j'étais un peu naïve, je ne pensais pas que ça puisse influer sur quoi que ce soit, mais ça a été le cas. Mes parents étaient chacun des étrangers, et chacun de leur côté avide d'appartenance à leur nouvelle culture, à leur nouveau pays, à leur nouveau sol, je dirais. Mais ce qui était intéressant dans mon enfance pour de vrai, là, et que je dis quand même, je raconte un petit peu dans le texte nulle part, c'est que dans cette avidité d'appartenance, les enfants étaient un peu laissés pour compte. Donc on était pas oubliés par eux, mais on était, ils avaient leur vie sociale, leur vie de couple, leur ascension, leurs amis, et nous on s'éduquait, mais pas. Un peu, je pense que ma mère va écouter cette émission, donc je deviens d'une prudence extrême. Bon, elle sait ce que je pense là-dessus. On était pas abandonnés, mais un peu laissés. Et je le dis, rassure-toi maman, comme une chose finalement très positive pour moi maintenant. Pas si positive que ça dans l'enfance, mais très positive aujourd'hui. Ça m'a donné une très grande liberté. Profonde. Je l'ai acquis dans l'enfance, cette liberté. J'ai su que je devais compter sur moi, être mon maître, gagner ma place dans la vie. Et comme la culture n'était pas nette chez moi, je n'étais pas catholique, j'avais pas de racines françaises, je sentais tout ça. C'était plutôt par la négative d'ailleurs. C'était pas tant que j'étais juive, c'est que j'étais pas catholique. Je me suis dit, il y a un terrain à conquérir, quel est-il, et m'est apparu très vite, de façon inconsciente, mais quand même active, que ce terrain ne pouvait être qu'extrêmement personnel. Je devais faire mon territoire à moi. Et un jour, j'ai dit à ma sœur une phrase énigmatique, j'ai dit le nom Reza, qui n'était pas le vrai nom de mes parents d'ailleurs, mes parents, la famille de mon père s'appelait Guedalia, et en fait Reza c'était comme Michel en Iran, pour des raisons que je pourrais expliquer si vous voulez. Et j'ai dit, j'ai créé le nom. Quand je suis devenue Yasmin Reza, j'ai créé le nom, je me suis créée moi, et j'ai créé le nom par l'écriture.
Vous aviez quelle place dans la fratrie ?
Je suis l'aînée.
C'est quand même une place évidemment particulière, parce qu'on... on reçoit un peu à la fois toutes les angoisses, toutes les projections très fortement des parents. Et aussi, on a un rôle, et encore plus dans cette enfance-là, par rapport à celles qui suivent ou ceux qui suivent.
Je pense que chaque place, nous sommes trois, chaque place dans la fratrie a une importance très grande dans la confection de soi et dans l'avenir. Je pense que c'est pas neutre, en effet.
Et de fait, est-ce que vous avez un peu élevé
Non, pas du tout. Parce qu'il y avait des gens qui étaient là pour ça. Donc moi, j'avais plutôt envie de m'échapper.
Vous citiez votre livre Nulle part, vous y écrivez notamment « Je n'ai pas de racines, aucun sol ne s'est fiché en moi, je n'ai pas d'origine ». Quand je vois dans les journaux iraniennes, juives, russes, hongroises, ce sont des mots que j'ai dit, nous venons d'en parler. Je n'ai pas d'origine, alors effectivement, on peut entendre ça comme un manque, et on peut entendre ça aussi comme une chance, et on peut se dire, les constructions a posteriori sont toujours faciles, que le fait d'être de nulle part, c'est être chez soi partout. Est-ce que c'est comme ça aussi qu'on peut l'entendre ?
C'est les deux. C'est être chez soi et aussi un chez soi qui n'existe pas. Moi, je suis traversée d'un sentiment constamment double, qui est que il n'y a pas d'endroit particulier où je suis chez moi, dans un premier temps c'est une très grande liberté. C'est le pays, j'ai toujours dit, c'est le pays de la langue. Je me sens chez moi, là où je peux m'exprimer, écrire et faire dans une langue que je connais et que j'habite particulièrement, disons, puisque c'est mon métier. Mais constamment, j'ai comme une nostalgie complètement aberrante d'ailleurs, parce qu'elle ne va jamais jusqu'au bout, d'une maison, d'un endroit, d'un petit ruisseau, de murs en pierre. J'envie les gens qui ont une maison de famille quelque part, et j'en suis totalement incapable. C'est même pas. J'ai eu quelques velléités avec quand j'ai eu un peu d'argent, d'acheter dans une province, de voir mes enfants gambader dans le jardin, d'aller me promener dans les bois. Je suis une grande marcheuse. Et à chaque fois que je me suis approchée de ça, j'ai eu un malaise, même physique.
Ça, vous n'arrivez pas à le construire ?
Non.
Mais c'est toujours un désir, quand même, aujourd'hui ?
Je ne crois plus.
Vous n'y croyez plus ?
Je ne crois plus que c'est un désir, parce que je n'y crois plus. Et j'ai été particulièrement heureuse quand nous avions un appartement, je parle de ma vie d'adulte, que j'ai vendu pour après louer. Ça m'a délivré de louer. je suis heureuse de ce que l'argent peut me donner au jour le jour. Je prends un taxi, je vais dans un très bon hôtel si je voyage, je m'achète des cerises en hiver, vous voyez, ce genre, où je m'achète des fringues, je suis très frivole. Mais le dur de ce que peut donner l'argent, de ce que peut permettre, pardon, l'argent, c'est-à-dire une maison, enfin, je ne me viens rien d'autre d'ailleurs, j'allais dire un vison ou des bijoux, tout ça, je n'en ai pas du tout envie.
Alors, je fais juste
ou des tableaux, vous voyez, des choses chères qu'on achèterait, ça me pèse, ça.
Alors, du coup, je fais une parenthèse, parce qu'il y a une autre chose qui a l'air de vous peser, Yasmina Reza, en à peine 10 minutes, déjà par deux fois, vous avez rejeté cette image qu'on peut avoir de vous, alors de petite fille riche, et puis aujourd'hui de femme riche. C'est quelque chose qui semble un peu douloureux, cette image qu'on vous renvoie de vous, qui n'est pas la réalité. Ou votre réalité, en tout cas.
Oui, bah, oui, alors, douloureux, le mot est vraiment très exagéré, mais c'est vrai que plus on avance dans une forme de notoriété, et ça, je pense que beaucoup de gens à ce micro pourraient dire exactement la même chose, plus, parallèlement à ce que vous produisez, et d'une façon d'ailleurs, il y a malheureusement de l'interaction, il y a une figure de vous-même qui se dessine. Et cette figure de moi-même, je ne la reconnais pas du tout. Elle finit par, pas par me rendre malheureuse, mais elle finit par me peser. Parce que je ne m'y reconnais pas du tout. Et surtout, ce qui est gênant, c'est que ça finit par déteindre un petit peu sur ce que je produis. Il y a des zones en France, c'est pas du tout vrai à l'étranger, hein, ce que je dis, mais il y a des zones en France où la perception qu'on a de moi est complètement fausse et où ça devient un peu problématique pour mon travail. On confond mon travail et la perception qu'on a de moi. Alors, c'est souvent, elle est nantie à tout point de vue, par la chance du succès, par ses origines sociales, par je ne sais quoi. C'est vrai que je suis nantie, au fond. Mais pas comme on veut bien le dire. Moi, je me souviens quand je suivais Nicolas Sarkozy pour le livre « L'aube, le soir ou la nuit » dans sa campagne, il avait une phrase que je trouvais très touchante pour moi, parce que je m'y reconnaissais dans cette phrase. Il disait tout le temps, et d'une façon très revendicante, « Je n'ai pas volé ma place, j'ai mérité d'être là. Cette place, je ne l'ai pas volée. » Mais il le répétait de façon incantatoire, très, très souvent. Et je comprenais non seulement la phrase, mais le sentiment qui l'animait. Pourquoi il répétait sans cesse « je n'ai pas usurpé cette place ». C'est quelque chose que moi, je ressens. C'est ça que je n'aime pas dans l'image. Elle est riche, elle est nantie, j'ai le sentiment, je crois juste, d'avoir énormément travaillé pour finalement pouvoir avoir cette aisance, cette liberté d'être et de création.
Ah bah de l'utilité de cette série d'Avoinu, Yasmina Reza, qui va nous permettre justement de voir, ici de revenir un peu sur ce travail-là et sur le fait qu'effectivement, cette place-là, vous ne l'avez pas usurpée. Mais justement, vous disiez, bon, l'image en France, et c'est vrai que depuis longtemps aussi, vous dites que la France, c'est un peu petit, pas au sens de mégalomaniaque, au sens où il vous faut le monde pour vous épanouir. C'est juste le besoin d'ailleurs, l'envie d'espace, d'air, quelque chose comme ça qui est chez vous très puissant aussi.
Mais c'est normal. Vous savez, il y avait une chose, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est tellement vrai. Je me souviens de très peu de choses de l'enfance. Je l'ai beaucoup occulté et au fond... Je me réjouis d'avoir opéré comme ça par rapport à moi-même, mais il me vient quelques détails très précis. Moi, ma famille était à Caracas, à Tel Aviv, à New York, à Budapest. C'était ça, ma famille proche, hein, mes grands-parents, mes tantes, il n'y avait personne ici. À l'école, les enfants allaient chez leur tante en Normandie, dans le sud, dans le Périgord. Et je ne comprenais pas, moi, les régions. Je disais, mais c'est où le Périgord? Et on me disait, mais c'est dans le sud. Mais dans le sud de quoi? Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que c'était la France, qu'on pouvait parler de la France en termes de région. Parce que pour moi, d'autres noms, c'était forcément l'étranger. Donc, vous voyez, quand vous êtes formé comme ça... Qui plus est, je ne parlais aucune langue commune avec les gens de ma famille. Quand mes grands-parents maternels venaient en France, on parlait une sorte de terrible anglais. Eux ne parlaient, ils avaient migré à New York, ne parlaient que l'anglais, très mal. Moi, je parlais à peine l'anglais, petite. Et je parlais pas le hongrois, ni l'allemand, qui était une autre langue qu'on aurait pu partager. Avec ma grand-mère qui parlait le boukarien de l'autre côté, je risquais pas d'avoir de grandes conversations. Et ainsi de suite. Donc, le monde était déjà le monde. Pour moi, petite, la France était l'endroit où j'étais, mais je savais qu'il y avait les mers, qu'il y avait l'au-delà, je savais pertinemment qu'il y avait le monde. Je savais qu'il y avait Moscou, je savais qu'il y avait la Russie. Donc quand j'ai commencé à écrire pour le théâtre, qui est quand même par essence même, comme la musique d'ailleurs, le lieu qui voyage, un grand auteur de théâtre, je ne sais pas que je prétends l'être, mais tous ceux que j'admirais étaient des gens qui étaient nécessairement universels. On ne peut pas imaginer un Tchekhov régional, un Shakespeare régional, ou même un Pinter qui ne soit qu'anglais. C'est nécessairement des gens. Le théâtre a cette essence même de pouvoir être joué partout. C'était une évidence que moi, la première chose que j'ai fait après conversation, après un enterrement, qui était donc ma toute première pièce, avec le recul, c'est intéressant d'ailleurs, j'ai été beaucoup contactée par les agents comme ça a été un très beau spectacle, plus qu'un succès, c'était un succès, mais c'était surtout un magnifique spectacle monté par Kerbra. Et on m'a beaucoup demandé, des agents, de s'occuper de moi. Et à chaque fois, je les trouvais trop régionaux. Et je disais non, non. Comme le nom m'est plus facile. Non, je savais que je m'ennuyais avec cette personne qui est tellement régionale. Jusqu'au jour où m'a contactée une femme exceptionnelle, morte beaucoup trop vite, qui s'est enlevée 10 ans d'âge pour me convaincre. Et quand elle est morte, j'ai découvert son âge. Pour moi, elle était beaucoup plus jeune. Qui s'appelait Martha Andras, qui était hongroise, qui était juive, qui était l'agent de Tennessee Williams, de tous les grands américains et anglais. Et j'ai tout de suite dit oui.
Alors, ce goût aussi de l'ailleurs, vous avez cité déjà Moscou, la Russie, Tchekhov, mais ça passe aussi par des lectures adolescentes de Tolstoï, de Dostoïevski. C'est aussi déjà, et par la littérature, ce qui n'est pas anodin, voilà, respirer l'air de la toundra ou d'autres cieux.
C'est très vrai. Ma culture... j'étais une grande lectrice, j'avais la culture française de l'école, mais... mes livres de chevet n'étaient pas français. J'ai découvert finalement les écrivains français bien plus tard dans ma vie, bien plus tard. Et j'ai commencé activement avec les Russes. Je pense que là, j'étais dans l'adolescence une très grande lectrice des Russes. Alors, tout Dostoïevski, qui était pour moi le grand des grands. Ensuite, il y a eu Gogol, mais même Gorky. Enfin, tous les Russes qui entouraient la fin du 19e. Un peu moins Tolstoï dans les grands romans, mais le Tolstoï de Maître et Serviteur ou d'Ilitch.
Mais qu'est-ce qui résonnait en vous? Qu'est-ce qui vous faisait vibrer?
Beaucoup de choses. Les noms. Les paysages, le froid, la passion, les questions morales. C'était la littérature qui posait les grandes questions morales. Le Dieu, le sens de la vie, le mal, le bien. Je ne trouvais pas ça dans d'autres littératures. Je trouvais que c'était plus étroit. La littérature russe créait des personnages un peu plus grands que nature. Et un peu plus isolé aussi, un peu plus passionné. Moi, je pouvais pleurer en lisant. Enfin, moi, beaucoup de gens pouvaient pleurer en lisant les Russes. C'était une littérature très, très affective et propice à l'adolescence, c'est vrai. Mais j'ai fait du russe à l'école pour pouvoir lire dans le texte, qui évidemment n'a jamais pu être le cas. Mais j'allais jusque-là pour pouvoir adhérer à cette folie, à cette passion. C'est curieux parce que juste là, il y a quelques mois, j'ai lu le livre que je trouve admirable de Carrère, Limonov, que j'ai eu la chance de pouvoir chroniquer dans Le Monde. Et Limonov m'a à sa façon rappelé un peu cet amour passionné que j'avais pour l'endroit même du chaos russe, qui était déjà le chaos russe il y a plus d'un siècle.
Vous évoquez l'école, le fait que vous preniez le russe. Si on revient vers la jeune Yasmina, elle est brillante, elle a son bac à 16 ans, ce qui n'est quand même pas rien. Vous inscrivez en socio à Nanterre et j'ai lu quelque part, vous disiez c'était parfait pour moi, tout était déglingué. Oui. Vous sentiez déglingué donc dans votre environnement.
Je m'étais inscrite d'abord en histoire géo.
Ah oui, vous n'aimiez pas la géographie.
Et, parce que j'aimais bien l'histoire, mais la géographie me tuait, je comprenais rien. On avait des cartes d'état-major, je comprenais rien. Je sais pas ce que je faisais là. Après, il y avait la socio, parce qu'il y avait le département de théâtre et cinéma, surtout cinéma. Il y avait les cours de rouge, de langlois. C'était marrant, la socio à Nanterre. Et Nanterre était totalement déglingué. C'était des bâtiments effrayants. Je sais plus comment c'est maintenant, des herbes sauvages. Enfin, c'était une calamité. Oui, je me sentais très bien là-dedans. C'était, je sais pas pourquoi. Moi, je n'ai jamais analysé ça, mais j'aimais bien ce.
Et puis après, études théâtrales.
Bah, dans le cadre des études de sociologie, il y avait non. Je dis une bêtise. En sociologie, qui m'intéressait par certains aspects d'ailleurs, j'avais découvert qu'il y avait un diplôme d'études théâtrales qui n'avait rien à voir avec la sociologie, dont je m'étais inscrite pour faire autre chose. Je me sentais pas de... J'avais pas de bonne direction pour moi, pour dire les choses autrement. Donc voilà, études théâtrales, pourquoi pas. Et dans ce cursus, il y avait une unité de valeur, on appelait ça comme ça à l'époque, qui était le jeu, un truc d'actrice, d'acteur. Et je me suis inscrite, je crois que j'étais pas mal, et le prof... Un jour, vient me voir et me dit « Mais vous savez, vous êtes talentueuse, mais surtout, vous êtes très originale. » Ah, moi, j'étais pas tellement remarquée jamais nulle part. Hein. Faut pas se dire que je marquais par ma présence où que ce soit. Donc, c'était rare qu'on vienne me voir et qu'on me dise quelque chose de très encourageant. Donc, ça m'a encouragée et j'aimais bien jouer, parce que j'aimais beaucoup l'aspect physique. En fait, je me sentais pas si à l'aise que ça dans un contexte purement intellectuel. Et je pense que l'écriture, c'est pas du tout intellectuel. Moi, je pense que c'est beaucoup plus physique, c'est physiologique, l'écriture.
Donc ça passe par le corps ?
Ouais, ça passe complètement par le corps. Si on s'en tient à l'esprit, il sort rien. Parce que tout le monde a fait l'expérience de voir qu'on a une idée formidable, on a quelque chose à dire, tout est bien dans la tête, on prend le crayon, le papier est là, et c'est fini, la transmission ne se fait pas. Le bras ne passe pas l'information, le bic encore moins, et la feuille ne reçoit rien ou qu'une banalité terrible. Pour que ça roule, pour que ça passe, il faut un truc physiologique. Donc, je me suis mis à m'enquérir des cours de théâtre, j'ai passé le conservatoire, j'ai présenté l'école Lecoq, et j'ai été... admissible et non reçue au conservatoire et admise chez Lecoq avec une sorte de dérogation. Il prenait personne avant 20 ans et il m'a reçue à 18 ans. Donc j'ai fait l'école Lecoq et ça a déterminé mon destin parce que chez Lecoq, on avait beaucoup d'improvisation. Donc l'improvisation, c'est l'invention du texte et je me suis rendu compte que là, j'étais vraiment bonne. Comme actrice, j'aimais le faire et je crois que j'avais des possibilités, mais j'étais bonne dans l'inventivité du dialogue.
On reviendra dans un prochain entretien sur ce moment comme ça de Yasmina Reza, comédienne. Mais juste peut-être pour finir ce premier épisode, dire que quand vous écrivez votre première pièce, Conversation après l'enterrement, dont on va parler plus longuement dans un prochain entretien, on pourrait imaginer qu'une comédienne débutante écrive une pièce pour s'attribuer un rôle. Et c'est pas ça que vous faites, vous. Vous écrivez du théâtre, mais pas pour vous. Ce qui n'est quand même pas la chose la plus naturelle. On voit souvent quand même le cas inverse. Comment est-ce que vous expliquez, aujourd'hui, ne pas avoir écrit d'abord pour vous ?
Je l'explique très très facilement, même déjà à l'époque, je savais pourquoi. Les acteurs qui écrivent pour eux pensent pas qu'ils vont être écrivains. Les acteurs qui écrivent pour eux, ils se vivent profondément en acteurs. Et c'est parce que le choix des propositions qui leur sont faites n'est pas adéquat qu'ils s'investissent dans eux-mêmes, dans quelque chose qui... Donc, ils se vivent comme auteur au rabais. Moi, j'avais l'ambition d'être un écrivain. Et volontairement, j'ai mis le plus jeune personnage à 35 ans. Et
vous
moi, j'en avais 10 de moins. 10
oui,
de moins.
25 à ce moment-là, oui. Ouais.
Donc, je savais qu'il y avait un interdit complet. J'ai créé l'interdit dans... dans la pièce. Je me souviens apparemment de ça.
Et pourtant, vous aviez plaisir à être comédienne tout de même.
Oui, mais vous savez, être comédienne, l'essence même d'être comédienne, c'est d'être désirée dans quelque chose qu'on n'a pas nous-mêmes confectionné. On veut interpréter un rôle qu'on n'a pas écrit, auquel on n'aurait pas pensé, par quelqu'un dont on n'imagine pas qu'il vous aurait voulu. C'est ça, l'essence même du désir d'être acteur. Or, le désir d'écriture est tout l'inverse, c'est un désir démiurgique. On veut maîtriser on veut créer de l'être, on veut créer un monde, on veut maîtriser l'univers qu'on propose.
Toute dernière question. Vous êtes mère.
Oui.
Et on parlait de désir. Le désir de transmission, il est de quel ordre chez vous? Qu'est-ce que vous espérez transmettre à vos enfants?
Moi, j'ai l'impression avec les enfants qu'on ne transmet rien qui passe par la volonté de transmettre. Bon, on peut un peu les éveiller, mais je pense que c'est la modélisation qui transmet. Par exemple, une des choses qui m'enchante le plus dans la façon dont mes enfants grandissent, ça va vous paraître trois fois rien, c'est que ce sont des enfants qui aiment marcher en montagne. Et je marcherai toujours, enfin, tant que je pourrai marcher, je marcherai avec eux en montagne, et ils marcheront avec moi, et quand je serai morte, ils marcheront en montagne. C'est sûr. Ils marcheront, c'est des vrais grands marcheurs, hein. C'est pas une petite balade d'une heure. Ils font des vraies randonnées, ils aiment ça profondément. S'ils y vont sans moi, ils vont m'appeler pour me dire je suis à 3000 mètres, voilà ce que je vois. Ça, pour moi, c'est une totale réussite. Autre réussite totale, une certaine moralité. Je crois que mes enfants sont très moraux. Je pense qu'ils seront incapables de voler. S'ils vont mentir ou mal se comporter, je pense qu'ils auront un surmoi assez puissant pour s'en vouloir. Voilà, le reste, qu'est-ce que je sais? Enfin, il y aura duré plein d'autres choses, évidemment, mais je pense que c'est des choses très essentielles, ça, de la tenue de l'être. Après, l'enfant est libre. L'être doit rester très, très indépendant des parents. Ça m'embêterait de par ma puissance sociale qui est indiscutable. Je peux pas faire en sorte que ça n'existe pas, que ce soit lourd ou que ça ait pu empêcher un développement. Voilà. Ça m'embêterait. Je crois pas que c'est le cas.
C'était À Voix Nue. Arnaud Laporte s'entretenait avec Yasmina Reza. Prise de son, Michel Mestre. Réalisation, Viviane Noël. Demain, le début de l'écriture, c'est toujours une image. Mmh.